Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Virginie au micro, une maman qui nous raconte la manière dont elle a tout plaqué en France pour venir démarrer son business en Andalousie, une région d'Espagne qu'elle affectionne particulièrement. Elle nous raconte également sa deuxième grossesse qu'elle a vécue là-bas, 13 ans après avoir connu la première. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Virginie.
Bonjour Cindy.
Merci beaucoup de vouloir prendre un peu de temps pour témoigner sur le podcast.
Merci à toi de m'avoir proposé.
Je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Alors moi je suis Virginie, j'habite dans un petit village à côté de Séville qui s'appelle Montellano, entre Séville et Ronda. Mon mari, c'est Bertrand. J'ai Wendy, qui a 18 ans, qui est ma première fille. Et Victoria, qui a 4 ans, qui est notre seconde fille.
D'accord. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétro de ta vie en France, de savoir un peu comment tu as rencontré ton mari, qu'est-ce que vous faisiez avant de venir vous expatrier en Espagne?
Alors moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais 16 ans et demi. On a 12 ans d'écart, hein, donc lui était plus âgé. Je faisais des études de pharmacie et de préparatrice en pharmacie. Donc, j'avais commencé ma formation. J'ai rencontré mon mari, on est tombé amoureux, hein, malgré la différence d'âge. Et à 18 ans, j'ai eu ma première fille, Wendy.
D'accord.
Et donc, j'ai quand même continué mes études. J'ai été diplômée de préparatrice en pharmacie. Et donc, moi, j'ai toujours travaillé en pharmacie. Et mon mari était directeur d'hôtel. Voilà.
Qu'est-ce qui vous fait venir en Espagne ?
Mon rêve était d'aller en vacances en Andalousie. C'est ce qu'on a fait. On est arrivé par hasard dans ce village où finalement, quelques années après, on s'est installé, Montellano. Mm-hmm. Et là, le coup de foudre. Le coup de foudre, la culture, la région, les gens. Donc, on est venu en vacances pendant quelques années, hein, avant de sauter le pas. Au début, c'était tous les ans. Puis après, c'était tous les 6 mois. Puis après, tous les 3 mois. Et toujours dans le même village où, au final, on a fait des amis. Puis un jour, on ne s'est plus senti chez nous à Nîmes. Et on se sentait chez nous ici.
D'accord.
Donc, c'est bien beau. Hein. Mon mari me dit, on va pas vivre de l'amour et d'eau fraîche. Hein. Mais moi, j'étais, on laisse pas passer une année scolaire de plus. Les vacances, elles se terminent. Il faut prendre la décision. Je le poussais. Je sentais que lui était quand même un peu les deux pieds. Il freinait. Ouais. Mais bon. Et j'avais une idée en tête. C'était pour faire partager ma passion pour cette région aux gens. Donc, pourquoi pas tenter? Et c'est vrai qu'on a pris la décision en août. On est parti en voiture avec quelques cartons, hein, et en avant, départ en Andalousie, août 2013. Notre fille, Wendy, qui avait 11 ans, elle est passionnée de chevaux et ça lui allait très bien aussi. Hein. Tout le monde nous disait, vous allez la déraciner, cet enfant. Et non, elle, c'était aussi, elle était ravie de pouvoir vivre avec nous cette aventure. Puis l'idée de partir, c'était vraiment, c'est pas on fait un test, c'est on part vivre là-bas. C'est pas un an, c'est pas 2 ans. Pour nous, c'était ça y est, on part, on change de vie.
Mais alors, comment vous lui avez annoncé à Wendy que vous déménagiez là-bas?
Wendy, ça a été, il n'y a même pas eu d'annonce. Hein, c'était à chaque fois qu'on revenait de vacances, elle-même qui disait on peut pas vivre là-bas. Donc au fur et à mesure, c'était vraiment une évidence. Il n'y avait même pas d'annonce. C'était ça te dit on va vivre là-bas? Oui, elle, c'était ce qu'elle voulait aussi. Donc je l'ai inscrite en août au collège du village. Et parce qu'on n'a pas voulu la mettre à l'école française, en fait, on a voulu une intégration complète.
Du coup, j'imagine que tous les trois, vous parliez très bien
Pas du tout ? Pas du tout, c'est ça le truc.
Wow.
Mon mari, oui, Bertrand parlait espagnol. Moi, à force de venir en vacances, on se débrouillait. Et Wendy, elle est rentrée au collège en sachant dire uniquement « hola et gracias ».
Mais à 11 ans, ça doit être quand même un sacré challenge pour elle.
Ça a été un sacré challenge. Et même nous, le premier jour, elle a fait son entrée en 5e, en fait. Et donc, assez difficile. Les premiers mots, le premier jour, la première semaine, elle avait des maux de tête parce que les Espagnols parlent très fort.
Oui.
Dans la classe, c'était, puis elle comprenait rien. Puis ça demande beaucoup de concentration. Et puis, ils ont été super. Non, mais elles, vraiment, ils l'ont intégré de suite. Ils ont vu que c'était une étrangère. Et de suite, ils se sont tous présentés. Resu, Juan Resu, Maria, des noms bien espagnols. Et ils l'ont invité même le premier jour chez eux. Enfin, ça a été une intégration, mais incroyable. Et le collège l'a beaucoup aidée. C'est-à-dire, quand elle avait cours d'espagnol, eh bien, il y avait plutôt une prof d'anglais qui venait seule avec elle. Alors, elles allaient au café en face. Quand elle nous disait ça, nous, comment ça, t'es allée au café en face? Où elle lui donnait des cours privés au final, et on était agréablement surpris parce que à aucun moment ils nous avaient dit qu'ils allaient faire quelque chose à part pour elle, pour l'aider. Donc ça a été vraiment super incroyable. Elle a été bilingue 2 mois après, hein.
C'était trop bien.
Impressionnant d'avoir, quand je conduisais ou elle avait des copines dans la voiture, je comprenais rien à ce que ma fille disait.
Donc, du coup, tu as rapidement surpassé en langue.
Ah oui, rapidement, oui, c'est tout à fait le mot. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps parce que...
Oui, comment tu as fait alors?
J'ai pas pris de cours. J'ai fait quelques cours Babel sur Internet. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout pris de cours. Et j'ai appris sur le temps, en fait. Donc, je conjugue très mal. Je peux travailler, hein, je peux parler. Hier soir, on était avec des amis. Je parle, hein, on se comprend. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je conjugue mal. Il me manque quelques bases qui me seraient utiles. Mais bon, malheureusement,
Oh, ça sera dans le temps.
Ouais, je me prends pas la tête parce que c'est bon. Ça fait maintenant 7 ans qu'on vit là et je les comprends, ils me comprennent. Alors, c'est vrai que j'ai pas un accent formidable en espagnol. Je garde mon accent bien français. Mais bon, ça donne son charme.
Ajouté avec l'accent du sud de la France, ça doit être un beau mélange.
Ça donne un son charme.
Alors, j'ai oublié de te demander, avant que vous arriviez en Espagne, comment vous avez fait tous les deux pour quitter vos boulots respectifs?
Moi, en fait, j'ai démissionné de la pharmacie. Bertrand, lui, a continué pendant 2 ans à faire les allers-retours en France. Donc, lui, il venait les week-ends, il ne s'est pas installé totalement avec nous. Le temps que je lance le projet, l'agence de voyage que j'ai faite, il fallait du temps, il fallait quand même qu'on ait des revenus. Donc, même si on avait loué notre maison en France, lui, il faisait beaucoup les allers-retours. Donc, ça a duré presque 2 ans. Comme pas qu'il n'y croyait pas trop, ce projet, mais il avait un peu peur.
Oui, donc il préférait garder
alors que moi, j'étais à fond dedans, quoi. C'était... Donc, avec Wendy, on est parti en premier et lui venait les week-ends. Oh, c'était bien sympa pendant 2 ans, comme ça aussi, ça... Au bout de tant d'années de vie commune, ça fait du bien aussi.
Tu veux pas repartir?
C'est ça.
Mais il pouvait pas trouver un travail vu qu'il était dans l'hôtellerie directement.
On est arrivé où c'était... il sortait à peine de la crise de 2008.
Oh.
Ouais. Okay. Donc il y avait pas, puis il parlait pas bien espagnol, donc on n'a pas cherché nous à travailler en fait avec les Espagnols forcément. L'idée était plutôt de créer nos entreprises. Donc non, il a pas spécialement cherché, puis il était directeur d'hôtel, donc il avait quand même un bon job en France. Et c'est vrai qu'on s'est pas posé la question de mettre des CV. Non, c'était pas du tout l'idée en fait. On n'y a même pas pensé.
Alors à quel moment il franchit le cap et il part directement là-bas.
Quand je suis tombée enceinte de la seconde, là j'y ai dit, là moi l'entreprise elle commençait à fonctionner, j'avais beaucoup de travail, là j'y ai dit ça va plus être possible, il va falloir maintenant que tu sois là à plein temps. Lui il en avait ras-le-bol, c'est vrai que c'est un coût aussi les allers-retours, même si c'est qu'une heure, 2 heures d'avion, c'est quand même un coût, c'était de la fatigue pour lui, hein. Donc, il a fallu...
Et pour toi aussi.
Et oui, bon, ça nous a changé la vie à nouveau, qu'ils reviennent à plein temps. Mais disons qu'on a eu l'occasion, ça a été, mais ça s'est bien goupillé tout. C'est ça qui est incroyable dans notre histoire. C'est que quelques mois avant d'accoucher, au final, il avait pris la décision de démissionner aussi. Hein, donc, il avait démissionné.
Okay.
Il était avec moi et on a eu l'opportunité de récupérer l'hôtel du village.
Oh, donc, trop bien. Ah oui, ça s'est super bien goupillé.
Oui, en fait, on signait l'hôtel, je venais d'accoucher. Ouais, Victoria était dans le maxi-cosy, avait des travaux dans l'hôtel. Voilà.
Mais comme quoi, c'est incroyable. Tu vois, tu crois, je sais pas si tu crois ou non au destin ou ce genre de choses, mais j'ai l'impression que tout est...
C'est fou, parce que nous, on n'était pas...
Parfois, tu poses la question.
Mais on est parti où on s'est pas posé 50 millions de questions. Tu vois, là, tu me dis, vous allez chercher à travailler. Ouais. Non, non, on n'a pas du tout. Moi, je ne m'étais pas posé de question sur est-ce qu'il y a d'autres écoles? Non, elle va à l'école du village. Est-ce que je peux, moi, chercher du travail? Non, l'idée, c'était, je voulais, moi, monter mon agence de voyage pour faire découvrir l'Andalousie. Lui, ben, fallait qu'il trouve quelque chose. Ben, l'hôtel, hop, c'est arrivé au bon moment. Voilà. Tout s'est fait comme ça, au final. On n'a pas, on n'a pas cherché. Ça s'est fait tout seul. C'est fou. C'est ça qui est dingue.
Mais alors, on va quand même revenir sur cette grossesse. Il y a quel écart entre les deux petites?
Elles ont 13 ans d'écart. Donc, Victoria est née en 2015. Et juste, je voulais dire, on s'est mariés aussi en Andalousie.
Vous vouliez choisir, en fait, où est-ce que vous vouliez vous marier, c'est ça?
Voilà, on ne voulait pas un mariage conventionnel. Donc, on a attendu 15 ans, 16 ans de vie commune et on s'est mariés en Andalousie un an après notre installation. Et Victoria est née en octobre 2015, donc un an après le mariage. Là, cette fois-ci, on a fait les choses dans l'ordre.
Mais c'est bien, comme quoi ça montre qu'il n'y a pas de règles dans une famille.
Non,
hein.
Complètement pas.
J'aimerais bien qu'on revienne sur Victoria. Est-ce que c'était un bébé surprise ou est-ce que tu voulais un deuxième enfant?
Un bébé surprise, oui. Alors, j'avais très envie d'avoir un deuxième enfant, mais à la fois, comme ben, on était tout se lancer, c'était pas le moment, mais comme on dit, des fois, c'est jamais le moment non plus. Hein. Donc, ça a été un bébé surprise voulu finalement parce que j'avais très envie d'avoir un deuxième enfant. Et surtout, je m'étais toujours dit, le fait d'avoir un deuxième enfant ici, en Andalousie, ça permettait d'être encore plus intégré, d'amener sa fille à l'école maternelle, d'avoir encore...
Oui, une expérience de vie que tu n'avais pas nécessairement pu avoir en mettant directement Wendy au collège.
Exactement, c'est ça. Et donc, voilà.
C'est super. Donc, en fait, tu reprends, entre guillemets, une vie là-bas.
C'est ça. On reprend...
En te mariant.
C'est tout à fait ça.
Un deuxième.
C'est comme si on avait eu deux vies. Mais vraiment, hein, on a notre vie française et là...
Comment tu l'annonces à Bertrand que tu es enceinte étant donné qu'il fait les allers-retours entre la France et l'Espagne?
Alors Bertrand, j'ai allé le chercher à l'aéroport un vendredi.
Ça commence bien.
Alors quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, vu que la grande avait quand même 12-13 ans, je lui ai dit, viens avec moi, on va acheter à la pharmacie. Et ça, c'est la complicité de l'avoir eu très jeune. Ma fille, je l'ai eu à 18 ans, la première. Donc, j'ai dit, viens, maman, on va acheter un test à la pharmacie. Et donc, elle était derrière la porte en train d'attendre pendant que je faisais le test. Et ça a été la première à savoir que j'attendais un autre bébé. Voilà.
Elle était contente.
Ouais, elle était contente. Bizarrement, on n'a jamais parlé, on n'avait jamais parlé d'avoir spécialement un deuxième enfant. Elle n'avait jamais demandé non plus d'avoir un frère ou une sœur. Ça ne la perturbait pas, elle avait sa petite vie tranquille avec nous. Et puis en fait, elle était super contente, c'était chou. Ça a été
c'est un petit bébé à pouponner.
Ma première finalement complice là-dedans, de l'avoir su en premier. Et donc, je vais chercher Bertrand à l'aéroport. Et j'avais préparé une jolie boîte à la maison. J'avais rien dit. Hein. C'était dur de tenir la semaine sans rien dire. Oh,
la semaine?
Oui.
Oh la vache. Moi, j'ai pas tenu une heure, donc vraiment tout mon respect.
C'était super dur. J'avais envie de lui dire, mais je voulais pas que ce soit dit à distance. Et donc, j'avais préparé une jolie boîte avec le test dedans. Et c'était pas loin. Ça remonte à 5 ans, c'est pas si loin, mais je crois que c'était... Peut-être veille de son anniversaire, un truc comme ça. Parce que c'était mais il y a un truc comme ça.
T'as tout donné pour son cadeau.
Je suis sûre que c'était un truc comme ça, il me semble bien. Et j'avais préparé la boîte. Et quand il a ouvert, il a vu le test. Il s'y attendait pas du tout. Mais voilà, c'était... il était content aussi, on était très heureux. Et après, ben, vient les doutes aussi. En se disant, est-ce que ça, lui, les allers-retours, est-ce que ça va pas être trop difficile?
Oui, j'avais la logistique derrière.
Voilà, la logistique derrière, la boîte, moi, qui commence à se lancer. Bon, mais de toute manière, c'était, on fait ce deuxième enfant. Hein.
Oui.
Voilà, mais bien sûr, il y a les doutes qui viennent après. C'est moi, en étant auto-entrepreneur, c'est que, ben, il faut travailler jusqu'au dernier jour. On n'a pas le choix. Personne ne peut me remplacer d'accompagner les gens. Et puis, comme la société venait d'être créée, je ne pouvais pas embaucher. Ça ne servait à rien. Donc, c'est vrai que ça met en doute sur tout ce qu'on est en train de lancer, tout le travail qu'on a fourni avant. Ça n'a pas été simple, hein, beaucoup de travail avec la petite. Mes parents sont venus finalement prendre leur retraite un an après avoir eu Victoria. Donc, ils m'aident, ils sont là avec nous et ils nous aident beaucoup.
Trop bien. Alors, j'aimerais bien un peu que tu nous parles de ton suivi de grossesse en Espagne par rapport à en France. J'aimerais bien que tu nous dises, est-ce que tu as noté des différences ou
alors,
pas du tout?
Quand je suis tombée enceinte, bien sûr, le premier truc qu'on se dit, c'est « Ah non, moi j'accouche en France !» Le premier truc, les mauvais a priori bien français, excusez-moi de le dire, où on pense que ben, ailleurs c'est moins bien. Alors en Espagne, c'est l'Europe hein, quand même, hein, on est quand même en Europe, même si...
Ça, c'est un pays occidental
voilà,
et développé.
Développé totalement, hein, même si c'est au sud de l'Andalousie, qu'ils ont encore plein de traditions. J'ai fait ma première visite quand même en Espagne, donc ça se passe différemment. Ça se passe dans un centre de santé où c'est juste une sage-femme. Mais j'avais pris mon rendez-vous aussi en France. Donc, j'ai commencé
donc
le suivi.
Donc, tu voulais comparer au cas où.
Voilà, j'ai commencé le suivi et en France et en Espagne. Et étant grossesse à risque par rapport à ma première, ben en Espagne, ils ont très bien fait le truc. C'est qu'on a arrêté la sage-femme, on est passé sur vraiment le gynécologue à l'hôpital. Parce que j'ai décidé de me faire suivre par l'hôpital, en fait. Moi, je n'ai pas de sécu privé, donc c'était l'hôpital.
Ouais.
Et j'avais une idée de l'hôpital en Espagne, mais c'était... genre, on accouche à l'ancienne, quoi, vraiment. Et puis,
Oui. Est-ce que je peux te demander pourquoi ta grossesse, elle était en high risk?
À risque en France. En fait, j'ai eu une prosidence du cordon et j'ai pas eu, elle s'est pas développée. Elle est née à terme, Wendy, en 1,8 kg.
D'accord.
Donc,
Donc
en naissant à
le
terme.
cordon
Donc,
était pas...
voilà, le cordon l'alimentait mal. C'était, du coup, je voulais pas le même problème pour la seconde. Et puis ça s'est terminé en césarienne, voilà, césarienne urgente, la petite qui était presque morte à la naissance. Donc c'est sûr qu'à 18 ans, quand vous mettez votre premier enfant au monde, il se passe ça, ça retient. C'est pour ça que j'ai peut-être attendu 13 ans aussi
Oui,
pour faire la seconde.
Ouais, non,
Ouais,
je comprends.
c'est vrai qu'on se dit tous les jours des femmes accouchent et vous, ça se passe comme ça, quoi. Et bref, donc ça a été compliqué. Wendy, et donc c'est vrai qu'on se dit, ben, ils ont mon dossier en France, ils savent comment ça s'était passé. Donc,
Oui.
déjà par rapport à ça aussi. Et puis au final, ben, je me suis fait suivre en France, en Espagne aussi. Et puis en Espagne,
OK.
ils ont trouvé d'où venait ce problème et on fait en sorte que ça n'arrive pas. Et j'ai finalement accouché en Espagne. J'ai arrêté de me faire suivre en France à 6 mois quand l'Espagne m'a dit, mais non, mais ça y est, on sait pourquoi il s'est passé ça. Alors qu'en France, bon, ben, on repartait sur le même schéma. Hein.
Après, je comprends que des femmes veulent venir accoucher en France parce qu'on a quand même la barrière linguistique. C'est quand
vrai
même aussi
que
une zone de confort.
J'ai envie de dire qu'au final, c'était ma plus grande peur de ne pas comprendre au moment où on me dit qu'il faut pousser ou quelque chose comme ça.
Oui, bien entendu. Et
Voilà.
pour l'avoir vécu personnellement
Voilà.
avec le pauvre type qui essaye de mettre la péri et je ne
C'est
comprends
ça.
pas qu'il faut que j'arrondisse mon dos plutôt
C'est
que
ça,
de
tout à
faire
fait.
l'inverse.
On a vécu la même
Donc,
chose.
non, non, je comprends parfaitement que tu as un besoin de confort, de vouloir accoucher en France
En
avec tes
France,
racines, quoi.
ouais, mais au final, j'ai accouché en Espagne et ça s'est très bien passé. Alors certes, c'est différent parce que ben, l'histoire de la valise, où en France, on vous dit préparez votre valise, il faut ça, ça dedans. Moi, je parlais à tout le monde de la valise, personne ne me répondait à cette question de qu'est-ce qu'il faut mettre dans la valise. Je suis arrivée presque paniquée parce que parce que ma grande avait 13 ans et ça faisait un moment et je savais pas ce qu'il fallait mettre dans cette valise. Alors j'avais beau regarder tous les sites internet et poser toutes les questions, mais en fait il n'y a pas besoin de valise parce qu'on vous fournit tout. On vous
Ouais, comme aux
fournit
US. Ouais.
voilà, donc on vous fournit les couches, les biberons, les habits pour le bébé
Oh, c'est génial.
et
Parce
voilà
qu'en plus, toi, c'est gratuit.
Et voilà, moi en plus j'ai accouché à l'hôpital, hein, même pas
Ouais.
en clinique privée. Ça s'est super bien passé. Alors c'est vrai que on reste que 24 heures. Ça, c'est bizarre aussi.
C'est marrant, ils ont à peu près les mêmes procédures qu'aux US, au fait.
C'est vrai.
Ouais.
Donc ça fait très bizarre. On fait soit en lit, soi-même. Ça aussi.
Ah ouais?
Oui.
C'est marrant, ça.
Oui, ils vous apportent tous les matins en fait une pile, des draps, les couches, les habits pour le bébé. Et voilà, vous faites votre lit vous-même. Alors souvent, ben, y a la famille hein, qui aide hein, en
Ouais. Ah
Andalousie.
bah oui, surtout que si tu te fais une
Voilà.
césarienne, je sais pas comment tu peux être pliée en deux pour
C'est
aller faire ton lit.
ça, c'est ça. Donc moi, j'ai eu la chance que ça se soit super bien passé.
Ouais.
Mais par exemple, la nuit où, que j'ai dormi, où j'avais Victoria, ben, il n'y avait personne dans les couloirs. Alors qu'elle pleurait, elle pleurait. Là, j'étais inquiète parce que ben, là, j'étais toute seule. Parce qu'on avait un groupe et mon mari gérait le groupe. Et il m'avait dit que, ben, il fallait qu'il n'ait pas resté avec moi la première nuit. À la fois, je ne savais pas que ça allait être qu'une nuit. Mais j'étais toute seule, ce bébé qui faisait que pleurer. Et j'ai cherché quelqu'un dans les couloirs, je me revois, et personne.
Il n'y avait pas d'infirmière ?
Pas d'infirmière, et j'avais décidé de l'allaiter, j'arrivais pas à l'allaiter.
C'est étonnant ça par contre.
Ouais. J'ai passé la nuit à chercher quelqu'un dans les couloirs. Donc bon, ben, on se dit, bon, ben, écoute, on n'est pas plus bête qu'un autre, hein, on va faire avec, hein, on va essayer de faire, et voilà. Hein, donc j'ai pas dormi de la nuit. Après avoir passé la journée à accoucher, j'ai pas dormi non plus de la nuit, ce bébé a fait que pleurer. Là, je me suis dit, celle-là, elle va avoir du caractère. C'est tout à fait le cas, c'est ça. Et le lendemain, on m'a dit, ben, vous sortez à midi. Donc voilà, c'était fini, hein, on rentre à la maison.
Ok. Mais alors, comment se passe ton retour à la maison ?
Ben, bien et à la fois totalement différent. Comme je disais, le fait d'en France, peut-être rester 2-3 jours à l'hôpital, ça permet vraiment de se reposer. Quand on rentre à la maison, ben... on fait à manger, on se fait moins chouchouter, hein, c'est un peu plus compliqué, la vie reprend, la grande, faut l'emmener à l'école, j'avoue que j'aurais bien aimé 2-3 jours à l'hôpital pour pouvoir apprendre de mon bébé, j'ai galéré par contre avec l'allaitement, j'ai tenu, mais difficilement quand même, hein. Mais je voulais absolument l'allaiter, parce qu'on n'est pas conseillé,
Quand tu rentres chez toi, tu n'as pas quelqu'un qui vient te voir à la maison pour faire un suivi ?
Non, après j'avais la sage-femme. Donc, 7 jours après, je suis retournée voir la sage-femme et le pédiatre du centre de santé, en fait. On a des centres de santé dans les villages et on dépend de ça. Et donc, ben, la sage-femme, elle m'a expliqué pour l'allaitement, mais il n'y avait rien à faire. J'arrivais pas. Je me mettais mal, donc du coup, j'avais des crevasses. Mais c'est vrai que... Ouais. Je les voyais toutes allaitées, je me disais, mais parce qu'elles avaient toujours une tata, une cousine qui leur expliquait, ou je sais pas, ça, on aurait dit que chez elles c'était naturel et que moi c'était une galère. Mais j'ai tenu, ouais. J'ai pas lâché l'allaitement, j'y suis arrivée.
Donc ils ont pas de consultante en lactation ou des choses comme ça pour.
Ben, la sage-femme, c'est la sage-femme qui aide à tout. Voilà. Et le pédiatre, pareil, c'est sage-femme ou pédiatre.
Et quand tu vas dans ces centres, ouais. C'est plusieurs nanas en même temps qui essayent d'allaiter ou c'est juste
cas alors, par cas ? En fait, le centre de santé, c'est un petit hôpital qui est dans le village, okay. Où il y a tout. Il y a le médecin, la sage-femme, le gynécologue et le pédiatre.
Okay.
Donc, le souci, c'est comme bien sûr, dans un village de 7000 habitants, quand vous avez un rendez-vous que la sage-femme est là que 2 fois par semaine, vous passez la matinée dans la salle d'attente. Hein. Parce que tout ouais. Le monde vient au dernier moment. En Andalousie, c'est un peu ça. Ah oui, mais moi, j'avais rendez-vous. Oui, mais moi, j'ai une urgence. Donc, comme il y a beaucoup. Donc, c'est ça. Il faut savoir que c'est la matinée complète, presque la journée. Ouais, ça, c'est... Mais bon, ça fait partie du folklore.
Tu penses que c'est juste dû à ton village et du fait que tu sois
non,
pas...
Non, c'est l'Andalousie comme ça qu'en général. Après, peut-être dans le privé, ça se passe autrement. Peut-être. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais testé le privé.
Oui, je comprends.
Mais bon, c'est folklorique, voilà, faut se dire.
Il pourrait peut-être améliorer le suivi post-accouchement.
Oui, ça, ouais, vraiment, je trouve, oui. Ouais. Oui, complètement. Il n'y a pas de suivi, faut que tout le monde soit assez très indépendant, on va dire.
Ouais. Et pour le coup, si tu n'as pas d'aide de la part d'une femme de ta famille.
Et ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça. Eux, ils se font beaucoup aider parce qu'ils sont nombreux souvent dans les familles.
Ils sont très famille.
Voilà, ils sont très famille. Bon, moi, ma mère, là, j'avais jamais allaité, hein, donc c'est pas elle qui pouvait m'aider. Et après, ben, j'avais beau expliquer à sa femme que ça marchait pas, quoi. C'était difficile.
Ouais. Et ben, qu'est-ce qu'elle te proposait alors ?
Elle me disait que je la mettais mal, hein, au niveau de la position.
Okay.
Donc elle me montrait, mais il n'y avait rien à faire, ça oui. Prenait peut-être sur le moment, mais une fois à la maison, donc j'ai acheté les coussins spéciaux allaitement, j'ai tout essayé.
Ouais. Non mais bon. Encore une fois, c'est pas parce que c'est naturel que c'est facile. Hein.
Ouais, voilà, c'est vrai que bizarrement ça a été plus facile pour ma première, que j'avais pas le droit d'allaiter normalement, Wendy j'avais pas le droit de l'allaiter, donc je tirais du lait. parce qu'elle était trop petite, il fallait pas qu'elle brûle de calories, donc il donnait le biberon à la seringue. Mais après j'ai réussi quand même à prendre un allaitement normal une fois qu'elle avait un bon poids.
Et j'ai, donc t'avais gardé ton tire-lait ou pas?
Non. j'avais rien gardé. En fait, il a fallu tout racheter. Ouais, il a fallu tout racheter. On n'avait rien gardé parce que on s'attendait pas à avoir une seconde et c'était pas dans l'idée. Donc, on est reparti à zéro.
Alors, quelle a été la rencontre entre Wendy et Victoria?
Alors, Wendy est venue la voir à l'hôpital donc le lendemain de l'accouchement. Ouais. Et ça a fait bizarre, ça a fait bizarre. Bizarrement aussi, Wendy n'était pas... alors, elle aime sa sœur, mais c'est deux enfants uniques, totalement. Elles n'ont pas trop de connexion entre elles. C'est pas, Wendy n'a pas été la grande sœur qui pouponne, pas du tout.
C'est vrai?
Ouais, pas du tout. Hein. Bon, elle aime bien, elle m'a aidé à faire le bain, elle m'a aidé pour des trucs, mais c'était plutôt... moi, je suis avec mes copines, j'ai pas trop envie. Donc, elles n'ont pas créé de lien. Par exemple, aujourd'hui, Victoria qui a 4 ans et demi et Wendy qui a 18, Wendy ne me garde pas Victoria.
C'est vrai?
Ouais. Par là, si je veux aller au sport, alors c'est toute une crise. Parce que Victoria ne veut pas être gardée par Wendy aussi. Il faut le savoir. Victoria est très jalouse de sa sœur parce qu'elle voit qu'il y a eu, une vie avant elle.
Oui.
Alors elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc s'il y a une photo de Wendy où Victoria dit que c'est elle, mais c'est pas elle, c'est Wendy.
Trop marrant.
Et c'est la petite qui rejette la grande, mais parce qu'aussi peut-être la grande, elle ne l'a pas rejetée, c'est que c'est pas.
Elle n'a pas fait nécessairement d'efforts.
Voilà. Ouais. Donc il y a un petit fossé entre elles, c'est dommage, c'est vrai.
Ouais. Comment toi tu gères du coup cette.
Victoria est très maman. Ouais, ça me fait de la peine parce que Victoria, par exemple, si Wendy vient à côté de moi, elle refuse ce lien que j'ai avec Wendy. Elle est totalement contre. Il faudrait qu'il y ait que elle. Et ça me fait de la peine qu'il n'y ait pas de connexion entre elles. J'aimerais que un soir, de temps en temps, ça va arriver où Victoria va avoir envie d'aller dans la chambre à sa sœur et lui demander de regarder un dessin animé ensemble. Mais en 4 ans et demi, ça a dû arriver 3 fois. Donc, alors quand elles le font, je suis contente. Ou quand Wendy part à cheval, que Victoria veut aller avec elle, que par intérêt, faut pas rêver. Que parce qu'elle sait que sa sœur va la monter à cheval. Sinon, elle a aucune envie d'aller promener avec Wendy au village. Non.
Est-ce que tu penses que c'est l'âge où, par exemple, elle était déjà ado et tu sais, quand on est ado, on est un peu...
Oui, je pense que... Alors, après, il y en a que non. Il y en a qui seront super seconde maman. Ça dépend des enfants aussi. Qu'elle a été fille unique 13 ans, peut-être aussi, ça y fait. J'avais pas spécialement d'autres cousins ou cousines où elle aurait pu déjà un peu pouponner avant. Donc, c'est pas quelque chose qui l'intéressait. Bon, c'est sa sœur, elle le sait, hein, mais...
Elle la rejette pas, c'est juste qu'elle ne porte pas trop d'intérêt.
Voilà, elle la rejette pas, mais elle a sa vie, sa chambre, c'est son cheval, ses amis. Mm. Donc voilà, c'est deux enfants uniques. On a vraiment deux enfants uniques sans... elles n'ont pas de complicité entre elles.
Peut-être que ça viendra après avec l'âge.
Ouais, c'est ce que je me dis. Oui, de toute manière, elles sont sœurs quoi qu'il en soit. Elles s'aiment quoi qu'il en soit. Peut-être que quand Wendy aura son appartement, elle sera ravie d'aller un peu squatter chez la sœur. Ça nous ferait un peu des vacances, nous aussi, j'avoue. On aimerait qu'elle nous la garde parce que, du coup, c'est compliqué. On a personne pour nous la garder parce qu'elle veut pas non plus aller dormir chez mes parents. Elle est très papa maman Victoria.
Ouais.
Elle est collée à nous parce que petite, quand elle est née, comme l'entreprise venait de se lancer, j'ai beaucoup travaillé. Je l'ai beaucoup ballottée à droite à gauche. Et du coup, maintenant que là avec le Covid, elle a beaucoup profité de moi. Ah, là, elle a du mal. Elle a énormément du mal à me laisser partir.
Oui. Là, ça va être intéressant de voir les séquelles.
Elle a connu de vivre avec papa et maman non-stop et elle apprécie énormément. Donc là,
je pense qu'ils ont tous apprécié. Hein.
Ah ouais, mais rien que pour aller au sport, c'est la crise, quoi. Je peux même pas aller au sport. On dirait que je vais l'abandonner.
Et Bertrand, comment il se sent alors entouré de toutes ces nanas?
De toutes ces nanas, c'est tout à fait ça, parce que même le chat est une fille, et même la jument, enfin la jument est aussi, on n'a que des filles. Oh ben lui, ça lui va bien, lui il aime bien les filles, il est content, il n'aurait pas aimé un garçon. Ouais, ça lui va très bien, Il aime ça. Il est entouré de ses filles. C'est parfait.
Alors, tu le mentionnais rapidement, mais comment tu as réussi à joindre les deux bouts du coup entre ton entreprise et le fait de devoir gérer un nouveau-né?
Difficilement. Difficilement, comme je dis, elle a été. J'avais pas de nounou, je trouvais pas de nounou. Et du coup, j'appelais vite une copine. Est-ce que tu peux me la prendre ce matin pour que j'aille travailler, accompagner un groupe quelque part? Donc, je la posais à un endroit chez une, le lendemain chez une autre. Donc, elle a des tatas espagnoles un peu partout, hein, qu'elle a créé beaucoup de liens avec une d'ailleurs, hein, qu'elle dit que c'est sa tata et son tonton, qui sont
Oh
devenus les parrains et marraines d'ailleurs. Hein,
ouais.
où elle va là-bas, comme c'est la reine, hein, elle est à sa maison. Elle fait sa commandante, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup, beaucoup, je l'ai beaucoup laissée. Je peux pas dire que je regrette parce qu'à la fois, ben, mon entreprise, c'est aussi mon bébé et il fallait aussi que ça tourne. Et j'ai pas rien raté, j'étais quand même là pour ses premiers pas parce que, en fait, c'est l'agence de voyage que j'ai, on fait des saisons où on a les grosses saisons, mars, avril, mai et septembre, octobre, novembre. Donc il y a des mois
D'accord.
où je suis beaucoup à la maison. Parce que moi, je travaille depuis la maison, beaucoup, tout ce qui est devis, l'ordinateur est à la maison. Donc, j'étais là. Même si on travaille, j'étais quand même là. Et les
Oui.
périodes où on part beaucoup, où des fois, j'accompagne les gens dans d'autres villes, où je pars une semaine. Donc là, c'était papa et papy et mamie et les tatas espagnoles.
Mais donc, Bertrand, il n'avait pas pu prendre un congé parental?
Alors, le congé parental, ici, ça n'existe pas.
C'est vrai?
Non, on a, enfin, on a, moi, j'ai pris mon congé parental quand j'étais, enfin, c'est combien, c'est 12, même pas 12 semaines. Ça doit être
Ouais.
15, peut-être 15 jours, je crois, si je sais plus. Très sincèrement, je sais plus. Mais en tant
D'accord.
qu'auto-entrepreneur, nous, comme
Oui,
on,
c'est
c'est notre
zéro.
société, c'est, voilà. C'est, moi, j'ai la veille encore d'accoucher, j'étais sur un 4x4 avec des gens en train de leur montrer les taureaux au campo. Vous voyez?
Sur un 4x4?
Sur une remorque. Un 4x4 dans une
Oh!
remorque.
T'avais pas peur avec les chocs sur la route?
Ben si, les gens me disaient, mais vous allez accoucher,
Ça va
madame. Je disais,
aller?
mais oui, mais personne ne peut me remplacer. Donc, de toute manière, j'en peux plus, il faut que j'accouche.
J'espère que vous avez une formation rapide au BGY
Voilà, non, mais c'est ça. Non, mais il fallait travailler, pas le choix. Donc, je travaillais jusqu'au dernier jour. Heureusement, j'ai eu une bonne grossesse. Ça s'est bien
Mmh.
passé. Ça, c'est une chance. Et puis ben j'ai repris le boulot dès que j'ai eu des gens, ben il fallait y retourner. Donc on alternait entre il y avait le lancement de l'hôtel aussi parce que ben on avait attaqué de signer l'hôtel, on avait racheté la concession du village.
Oui.
Et donc il y avait tout ça à mettre en place plus bébé au milieu et ben ça se
Ah,
fait hein,
vache.
maintenant ça s'est fait.
Et alors aujourd'hui, Victoria, elle est rentrée à l'école et elle parle les deux langues sans problème.
Alors, Victoria est allée à la crèche dès les 1 an, dès qu'ils vont plus me
D'accord.
l'apprendre. À 1 an,
Donc ils prennent que à 1 an ici la crèche, pardon, j'ai
ils
oublié de
prennent
te demander ça.
avant. Ils prennent avant, mais j'ai pas eu de place. Donc,
Ah,
elle a pu
zut.
rentrer à 1 an. Donc, ça a été un soulagement total.
Oui, j'imagine.
Depuis la ballottée, la pauvre, ça a été génial. Elle avait enfin une structure bien pour elle. Donc, elle a appris à parler espagnol en premier.
Ouais.
Donc à 4 ans et demi, elle parle, ça y est, elle parle couramment les deux langues, bien elle a mis du temps à parler. Elle avait un retard de langue, je pense que ça vient des deux, parce que nous à la maison on parle que français, et elle
Ouais.
étant à l'école, elle n'est pas à l'école française, elle est à l'école du village, du coup,
Donc
ben,
espagnol, ouais.
espagnol. Donc elle parle, l'espagnol lui vient beaucoup plus facilement, c'est sa langue qu'elle a appris. Ici, hein, pour elle, c'est l'espagnol. Mais le fait d'avoir été avec nous là pendant 2 mois enfermée, elle a bien appris à parler français maintenant. Ça y est. Alors,
Et
elle fait beaucoup de
alors
mélanges. Voy a mi chambre. Yo quiero un petit. Un petit.
biscuit.
Voilà. Ça, c'est adorable. J'adore. C'est trop mignon de les voir parler comme ça. Mais voilà, elle a le bon accent espagnol.
C'est un peu ce qui revient, le fait que les enfants qui sont
Qui sont
biculturels
bilingues.
à parler deux langues ont en général un petit retard de
Ouais,
langue.
c'est ce que j'ai lu, oui. Il paraît que. Alors, certains disent que oui, d'autres que non. Moi, je pense. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Elle a eu un retard de langue. Quand elle est rentrée en maternelle à 3 ans, ils parlaient tous bien l'espagnol. Elle faisait un charabia, c'était incompréhensible.
Oui.
Mais
Mais
bon.
c'est pas. Tu trouves que c'est passé aujourd'hui ou,
Oui,
enfin, du moins
aujourd'hui,
ça va
enfin,
mieux.
il y a encore, ça, il y a encore, des fois on l'a fait répéter plusieurs fois. Hein. Mais du coup, ça l'a frustrée énormément, ça. Je me souviens qu'elle était très en colère. Elle était très frustrée qu'on la comprenne pas. Mais
j'imagine bien
ça a été, ça a été très difficile. Et bon, maintenant, ça va, elle parle bien. Ça va mieux, là. Mais depuis peu, hein. Depuis peu.
Donc, il faut se faire force. C'est pas... Il faut pas s'inquiéter.
Il faut pas s'inquiéter. Je me suis pas inquiétée. C'est vrai que j'avais lu qu'il peut y avoir un retard de langue. La maîtresse n'était pas inquiète non plus. On en avait parlé. Okay. Et donc là, maintenant qu'elle parle bien français, on a décidé avec la maîtresse pour l'année prochaine de faire quelques interventions en français dans la classe.
Ah,
que
trop
ses
bien.
Petits copains, en fait, puissent comprendre qu'elle parle aussi notre langue.
Oui.
Et quelle langue ? Que ce n'est pas l'anglais. Mais alors, comme Wendy, elle fait une barrière à parler français devant les Espagnols, par contre. Et Wendy, pareil, devant ses copines, elle avait honte. En cours de français, par exemple, où la prof parlait que français, et ben elle avait très honte de montrer qu'elle parlait bien français, finalement.
Bah, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais quand t'es petit, à partir... t'aimes pas avoir des différences
voilà,
avec les autres.
C'est tout à fait ça, c'est tout à fait le mot, c'est de pas être différent. Et ça fait une différence. Alors Victoria, pour l'instant, j'ai pas trop l'impression que ça la dérange, mais quand même, j'ai remarqué que s'il y avait une espagnole et que moi je lui parle français, elle va me répondre en espagnol.
Oui.
Elle va pas
elle
me
va
répondre
être...
devant la personne en français.
Ok.
Donc je pense que quand même, bon, on va essayer avec la maîtresse l'année prochaine, voir un peu son comportement, si elle aura pas honte de parler français devant ses copains. Ses copains
ben,
qu'elle a depuis la crèche.
Si elle a envie d'être mise en avant ou pas. Quoi.
Et voilà. Alors elle, c'est plutôt un caractère d'être mise en avant, Victoria. Elle a un caractère
forceuse,
mise en avant. Wendy est plus, beaucoup plus...
introvertie.
Voilà, totalement. C'est deux copies conformes, mais deux caractères totalement différents. On avait Wendy qui a toujours été une enfant qui bougeait pas. Hein. Un amour gentil, tu as posé un endroit le lendemain, tu pouvais revenir, elle avait pas bougé. Et alors l'autre, c'est l'opposé. Du moment où elle est née, elle nous a retourné. Elle nous a changé.
Un caractère.
Ah oui, un caractère. Ah, c'est total. Ça nous a changé la vie. Des fois, on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On avait la paix. On était tranquille. Mais bon, c'est que du bonheur.
Quel bilan, alors, tu tires un peu de ton expérience d'expatriation entre la France et l'Espagne?
Alors, le bilan. Le bilan, c'est beaucoup de courage. Mais que je m'en suis rendu compte qu'après, en fait. Parce que quand je suis partie, c'était on fonce. On fonce dans le tas finalement, puisque je m'étais pas organisée, je m'étais pas posée de questions, c'était on y va. Et quand après, avec le recul, c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on a fait, quoi. Fallait être un peu fou pour partir sans travail, juste avec une idée en tête et une envie. Et une page blanche, parce que c'est ça, hein, j'ai pris l'ordinateur, une page blanche, j'ai créé mon logo, l'agence de voyage et le nom. Je parlais pas la langue, il m'a fallu créer tout ça, hein, d'aller se confronter à tout ça.
Est-ce que je peux te poser une question que tu auras le droit d'y répondre ou pas, mais comment vous avez pu faire alors financièrement ?
On avait loué notre maison en France, donc ça nous a apporté un revenu locatif. Et Bertrand qui a fait les allers-retours pendant 2 ans en gardant son salaire en France. Donc ça nous a permis de nous lancer. Puis il faut savoir que le sud de l'Espagne, c'est beaucoup moins cher. C'est là où le bilan, ben, on est heureux d'offrir cette qualité de vie à nos filles, c'est-à-dire où on se sent en sécurité. Aussi sur le côté où on a été capable de faire ça, de franchir le pas, d'arriver avec rien et d'essayer de se construire totalement. On a tout construit, quoi, tout créé. Et ben, on a encore des projets, des envies. J'ai envie de dire, il n'y a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on pourrait faire. Et à la fois, on a décidé de lever un peu le pied, de se dire, bon, on a voulu vivre ici. Ici, c'est un peu la vie no pasa nada. Tu vois, des fois, ils ont du boulot, ils le perdent. Bon, ben, c'est pas grave, demain, c'est un autre jour. On essaie d'avoir cette mentalité, bien qu'on reste à notre mentalité française. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vois comment j'ai fait quand j'ai eu Victoria, de beaucoup, beaucoup travailler. Bon, maintenant, la société, même si avec le Covid, ça a pris un gros coup. Je vais remonter la pente. Mais après, j'ai envie de voyager. J'ai envie de maintenant prendre du temps pour nous.
Quel conseil tu aurais à offrir à une famille qui, comme toi, souhaiterait développer leur business en Espagne ?
Alors, j'ai envie de dire de ne pas trop se poser de questions. Beaucoup nous demandent, énormément, on a beaucoup des clients à moi qui ont vu, qui nous ont connus à Nîmes, par exemple, et qui nous ont suivis ici. Et une fois qu'ils viennent ici, ça y est, c'est devenu leur rêve aussi. On
Bah,
a
tu
eu.
m'étonnes, vous êtes inspirants quand même tous les
Voilà,
deux.
c'est ça. Et le
Ouais.
problème, c'est que ben, eux, ils ont 3 millions de questions. Et il y a tellement de si et de si et de si. Au final, les trois quarts n'ont jamais franchi le pas pour le moment. Et la vie apportera le reste. Il me semble
Oui.
hein, qu'il faut faire comme ça, sans trop se poser de questions. Parce que quand on s'en
Alors,
pose
qu'est-ce
trop,
qu'on
c'est
peut
pas bon.
te
Hein.
souhaiter pour la suite?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, que ce Covid termine rapidement pour tous. On est tous dans le même bateau. Ça va être très dur de remonter la pente. Hein, parce que nous, dans le tourisme, que ce soit l'hôtel ou l'agence de voyage, ben, on a pris un coup, hein, bien sûr. Hein. Le rêve n'est pas effondré, mais c'est vrai que il va falloir que ça reparte. On espère, on relance septembre-octobre. On espère que ça va refonctionner. Souhaitez-moi que ça se relance et surtout que je puisse retourner découvrir le monde. Voilà. Et qu'on soit en bonne santé, c'est ça surtout.
Ouais,
Avant tout.
non, en tout cas, ton témoignage donne vraiment envie de tomber
Amoureux
complètement
d'un
amoureux
pays.
de l'Andalousie, quoi. C'est incroyable, mais ça donne, en tout cas, ça donne clairement envie d'y aller, quoi,
Ben,
pour
allez-y
avoir eu une
parce que
expérience
c'est
aussi
très très
inspirante.
beau. Allez-y, c'est
Ouais.
très très beau. Il y a vraiment le côté hors des sentiers battus, les Andalous, ils sont dehors le soir quand il fait chaud avec leurs chaises sur le trottoir en famille. Si on retrouve des valeurs que peut-être qu'on a perdues aussi, c'est peut-être ça aussi qui nous attache autant à cette
Ouais.
région. De retrouver des valeurs de la simplicité. Voilà.
Ouais.
Et ça fait du bien.
Écoute, je pense que je vais devoir finir cet épisode parce que sinon je vais devoir acheter un billet d'avion.
Parfait.
Non, en tout cas, merci beaucoup
Merci
pour
à
ton
toi, Sylvie.
témoignage. Il est extrêmement inspirant et j'espère qu'il va aider quelques familles qui souhaitent franchir
Puis
le pas
n'hésite
pour aller
pas à
en
me poser des
Espagne.
questions si besoin.
Oui, bah ou pour s'étoper un voyage là-bas, quoi, parce que tu le vends très très bien.
Voilà, c'est la passion avant tout, c'est ça.
Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!